Bonjour et bienvenue dans le quatrième numéro de l'analyse des experts, une émission proposée par le site internet horseball.org.
Plus que quelques jours avant la quatrième étape du championnat de France Pro Elite qui se dispute ce week-end au Bullring Jump du Mans.
Nous sommes très heureux de vous accueillir dans notre émission dans laquelle nous allons nous plonger dans le monde du horseball.
Entre analyse, actualité, interview, nous allons essayer de vous livrer un maximum d'informations sur la discipline.
Nous sommes le mercredi 7 janvier 2015, l'occasion de vous souhaiter évidemment une très bonne année et sans plus attendre, retrouvons le sommaire de l'émission.
Retour sur la troisième étape du championnat de France Pro Elite qui se tenait à Mâcon.
La qualité de l'organisation avec la note des équipes.
Notre rubrique expert comptable.
Le classement, les bonnes et les mauvaises opérations.
L'analyse des performances des équipes.
Et bien entendu, les impressions des différents acteurs du circuit.
Nous ferons ensuite un petit récapitulatif du championnat de France Pro dont la dernière étape se tenait à Mâcon.
Puis nous prendrons la direction du Bullring Jump du Mans où se disputera la prochaine étape du championnat.
L'infirmerie de la Pro Elite et les compositions probables des différentes formations.
L'état de forme des équipes, les matchs et les chocs au programme.
Et enfin, les pronostics des experts.
Bienvenue dans le quatrième numéro de l'analyse des experts. Nous débutons notre émission par un retour sur la dernière étape du championnat de France Pro Elite qui se tenait au centre hippique de Mâcon les 13 et 14 décembre derniers.
Oui, avant d'analyser les résultats sportifs, découvrons tout de suite la note moyenne que les 10 équipes Pro Elite ont attribuée à l'organisation.
8 sur 10.
8 sur 10.
7,5 sur 10.
7 sur 10.
8 sur 10.
6,5 sur 10.
9 sur 10.
8 sur 10.
8 sur 10.
7 sur 10.
Voilà donc une moyenne de 7,7 sur 10 donnée par les responsables des équipes Pro Elite.
Et à noter également que la note donnée à l'organisation par le délégué technique fédéral est de 8,68 sur 10.
Après trois étapes, c'est donc l'organisation de Mâcon qui semble la plus appréciée par les acteurs du circuit, avec une note globale de 8,19 sur 10, devant Saumur avec 7,95 sur 10, puis enfin Rosières-aux-Salines avec 7,26 sur 10. Rentrons à présent dans le vif du sujet avec les données sportives à date et avec notre rubrique expert comptable.
Meilleures attaques, meilleures défenses, meilleurs joueurs, meilleurs buteurs, podium WHBO, sanctions, des chiffres et des données en pagaille pour un état des lieux du championnat de France Pro Elite à l'issue de la troisième étape de Mâcon.
7,7 sur 10.
C'est la note moyenne donnée par les équipes à cette organisation de Mâcon. 8,68 sur 10.
C'est la note donnée par le délégué technique fédéral à l'organisation. 62.
C'est le nombre de buts inscrits par la meilleure attaque du championnat qui n'est autre que Arles HCC. 35 buts.
C'est le nombre de buts encaissés par l'équipe de Bordeaux qui est la meilleure défense du championnat. 8.
C'est le nombre de buts inscrits par les meilleurs buteurs de l'étape, à savoir Clément Abbey pour l'équipe de Coutainville et Robin Cool pour l'équipe de Lille. 20.
20, c'est le nombre de buts inscrits par José Lito Birales qui est pour l'instant le meilleur buteur du championnat depuis le début de la saison. 36,5.
C'est le nombre de points accumulés par le meilleur joueur au classement WHBO, Romain De Ponce, suivi par Adria Cruz, Marty et Benjamin De Ponce. 13.
13, c'est le nombre de cartons distribués par les arbitres sur l'étape de Mâcon. Il y en a eu uniquement 6 sur la catégorie Pro Elite. 16 cartons en Pro Elite depuis le début de la saison. 5.
C'est le nombre de cartons distribués par les arbitres les plus sévères du championnat, à savoir Jean-Marc Sor et Quentin Gauthier-Lafaille. 164.
C'est le nombre de buts inscrits par les équipes Pro Elite sur l'étape de Mâcon. Il y en avait eu 158 la saison dernière, il y a eu 6 buts de plus inscrits cette saison. Retour sur les 10 matchs qui étaient au programme de la dernière étape qui se disputait à Mâcon, les bonnes et les mauvaises opérations.
Et un petit récapitulatif du classement général avec deux équipes en tête avec 18 points. On parle donc d'Arles HCC suivi de Bordeaux. On retrouve ensuite avec 4 points de retard les joueurs de Chambly suivi d'un point par Coutainville-Ezéa puis Lille Méroc à un point des Roses. Derrière ces 5 équipes viennent ensuite les joueurs d'Angers avec 10 points puis Aramonsas, Bellegarde et Ouest-Lyon à égalité avec 9 points à la 10e et dernière place. C'est la formation de Loire-sur-Rhône qui compte 8 points à son compteur.
L'équipe d'Arles HCC pour commencer qui reste à la première place du classement provisoire. Benoît Lévesque est meilleur buteur de la formation. Il est également le mieux classé au classement des joueurs WHBO. Pas de carton à signaler pour cette équipe. Une victoire face à Chambly, une victoire face à Angers. Une équipe convaincante face à Chambly avec une très bonne entame de match, une bonne possession de balle, des attaques percutantes. Des joueurs arlésiens qui ont mis réellement leur emprise sur la rencontre avec des chamblysiens un peu figés. Le lendemain, on n'a pas vu du grand Arles HCC avec des tirs au-dessus de la tête, d'une défense un peu tassée, des attaques moins pertinente, des pertes de balles. En bref, Arles HCC n'est pas passé très loin de la correctionnelle face à Angers. A noter tout de même que les Arlésiens sont les plus impressionnants en ce début de saison et semblent déterminés à conserver le titre, leur titre de champion de France. On écoute tout de suite Luc Laguerre, l'entraîneur de l'équipe d'Arles HCC.
Mais le bilan, de toute façon, il est très positif puisqu'on récupère les 6 points. J'ai envie de retenir le match de samedi parce que là, on était à l'heure, on était au rendez-vous, on s'est mis au niveau de l'événement. Avec des gars qui ont respecté le plan de jeu, avec peu de déchets, beaucoup d'investissements. Et puis le dimanche, c'est un match du dimanche avec des gars fatigués, qui regardait par terre, hein, qui loupait des trucs faciles, comme ça peut arriver parfois. Donc bon, ça finit bien, mais ça marchera pas à tous les coups, ça c'est sûr. Moi, ce qui me pose vraiment problème, c'est que les mecs puissent galoper 30 mètres au milieu du terrain sans qu'on ait un gars qui vienne défendre dessus. Je veux dire, on peut très bien, contre une équipe d'amateurs, hein, être malmené pareil à partir du moment où on ne respecte pas les bases de la combativité, de l'engagement physique, d'un minimum d'esprit de compétition, quoi. Quand on est en léthargie, on se fait bouger par n'importe qui.
L'équipe de Bordeaux maintenant, qui reste donc à la deuxième place du classement provisoire, Benjamin Deponce qui est le meilleur buteur de la formation. Romain Deponce est le mieux classé au classement des joueurs WHBO, il est actuellement premier. Un carton à signaler pour Jean-Baptiste Deponce, un carton jaune. On a vu donc Bordeaux s'imposer face à l'équipe de Lille et face à l'équipe de West Lyon. On a donc vu deux visages, hein, de l'équipe de Bordeaux sur cette étape, avec une première victoire face à Lille, un jeu un petit peu étriqué, des attaques stéréotypées avec une balle qui attend un petit peu trop Romain Deponce et qui du coup ne bouge pas vraiment à l'arrière. L'équipe est cependant appliquée avec une bonne défense, mais pas des plus convaincants. Le lendemain, on a retrouvé, hein, cette équipe de Bordeaux combative, efficace et décontractée, avec du rythme et une bonne cohésion, ce qui nous a laissé l'impression d'un match facile. Je vous propose tout de suite d'écouter Benjamin Deponce qui nous parle de cette équipe bordelaise.
Lille et Maroc, on est rentré, on a fait une première mi-temps, disons, convenable. On a eu un peu du mal à se trouver tout le long du match. Ça a été un petit peu haché, le jeu. On n'arrivait pas à être fluide dans nos attaques. Non, mais c'est vrai que dans la construction de jeu, c'était un petit peu saccadé. On s'est dit, on n'arrivait pas à enchaîner sur nos ressorties et repartir sur des attaques fluides. On était en rupture de rythme, on n'était pas ensemble. Ça manquait un peu de joueurs dans le milieu du jeu. Du coup, on n'a pas pu enchaîner notre circulation de balles. Et du coup, c'était un peu saccadé, mais on a réussi à rester devant et c'est le principal. Aujourd'hui, on jouait West Lyon, c'était être un peu plus ouvert en défense aussi, c'était rude, mais bon, il y avait un peu plus de trous. On s'est un peu mieux retrouvé, pareil sur nos ressorties, c'était un peu plus fluide, ça manquait encore de... On a la balle qui bouge moins que sur le premier week-end ou que même sur même l'an dernier, mais on a réussi à repositionner un peu un joueur dans l'entrejeu et à se retrouver un peu. Et après, bon, la défense était assez ouverte, donc souvent avec une seule passe, ça faisait le décalage et on arrivait à trouver la solution dans le centre. C'était un petit peu mieux, on a réussi à garder une distance et puis c'est un des premiers matchs où on garde un peu de goal average depuis le début de la saison. Donc il y a encore des choses à travailler, beaucoup de choses à travailler, mais bon, c'est un week-end assez satisfaisant. On repart avec nos 6 points et voilà.
L'équipe de Chambly maintenant, qui reste également à la troisième place du classement provisoire. Pau Krousmarty et Florian Moscovitz sont les meilleurs buteurs de la formation. Adria Krousmarty est le mieux classé au classement des joueurs WHBO, il est deuxième. Deux cartons jaunes, hein, pour cette équipe, un pour Ellington Barnes et l'autre pour Christophe De Geurs. Une défaite face à Arles HC, une victoire face à Coutainville-Izea. L'équipe a semblé comme pétrifiée, hein, face à Arles HC. Elle n'a pas vraiment et véritablement développé son jeu. Bon, loin d'être noyé, les Chamblysiens sont restés dans la rencontre, mais avec des problèmes en défense et en touche, il était très difficile de rivaliser avec les Cavaliers du Sud. Contre Coutainville-Izea, malgré une première mi-temps en demi-teinte avec quelques pertes de balles et une recherche systématique de Florian Moscovitz dans le démarrage des actions, l'équipe est arrivée à profiter de toutes les erreurs de l'adversaire. Et c'est en deuxième mi-temps que Chambly a retrouvé son jeu avec de l'envie, du rythme et un collectif au rendez-vous.
L'équipe de Coutainville-Izea maintenant, qui reste donc quatrième du classement provisoire, c'est Clément Abbey, hein, qui est le meilleur buteur de la formation. Thomas Datin est le joueur le mieux classé au classement WHBO. Il est donc neuvième. A signaler cependant un carton jaune pour Baptiste Auclair et Clément Abbey. Cette équipe donc a fait un match nul face à l'équipe de West Lyon et qui a perdu contre l'équipe de Chambly. C'est la plus grosse déception, hein, de l'étape de Mâcon. On a vu Coutainville qui n'était pas vraiment au rendez-vous et qui a laissé des points précieux s'échapper. On a vu des problèmes en défense face à West Lyon, les joueurs d'Agon qui ne s'attendaient peut-être pas à une équipe de West Lyon aussi déterminée, combative et efficace contre Chambly, hein. C'est après une première mi-temps dans le rythme, malgré quelques pertes de balles grossières, que les Roses de Coutainville prennent littéralement l'eau en défense. Le score, hein, est sévère, 12 buts à 5 et traduit parfaitement la petite déroute normande.
L'équipe de Lille-Emrock maintenant, qui reste à la cinquième place du classement provisoire. Robin Cool est le meilleur buteur de la formation. Benoît Laversin, quant à lui, est le mieux classé au classement des joueurs WHBO. Deux joueurs, même trois joueurs avertis dans cette formation par un carton jaune. Benoît Laversin, Robin Cool et Antoine Tomazic. Une défaite face à Bordeaux et une victoire face à Loire-sur-Rhône à Mâcon. Il a été difficile pour Lille de trouver la solution en attaque face à une défense bordelaise en place. On a connu la formation lilloise plus percutante, mais les nordistes ont tout de même réussi réussi à éviter un score fleuve. Le lendemain, face à Loire-sur-Rhône, avec une défense très haute, hein, les Lillois ont réussi à gêner leurs adversaires, avec quand même quelques petits problèmes à signaler en touche. Mais bon, les Lillois arrivent à s'imposer facilement en restant, comme à leur habitude, mobilisés et combatifs du début à la fin de leur prestation.
L'équipe d'Angers à présent qui est sixième du classement provisoire. À noter que Marcelin Rambeau est le meilleur buteur de cette équipe. Il est également le meilleur joueur au classement WHBO pour l'instant. À noter un carton pour Benjamin Daumont. Donc cette équipe d'Angers qui a fait un match nul face à Bellegarde et une défaite face à Arles HC. On a vu une équipe qui a un peu accumulé les déchets, notamment face à l'équipe de Bellegarde, avec beaucoup de ballons perdus hein, pour l'équipe qui a quand même montré qu'elle peut créer la surprise. Et c'est ce qu'elle a failli faire hein, contre l'équipe d'Arles HC. Angers qui est donc une équipe difficile à jouer, notamment grâce à cette très bonne touche. Je vous propose tout de suite d'écouter Ludovic Daumont à propos de son équipe.
Un peu déçu hier de faire match nul contre une bonne équipe de Bellegarde. Après, on a fait trop de déchets et je pense que sur la physionomie du match, on peut s'estimer plus qu'heureux de finir un match nul. Et puis aujourd'hui, on joue contre sans doute une des deux meilleures équipes du championnat. On perd un but sur le fil. Trop de déchets dans notre jeu, une cohésion dans notre équipe qui a été retrouvée par rapport à la veille. Et voilà, on compte essayer d'arriver à être meilleur sur plus que 12 minutes, arriver à tenir 15-20 minutes pour pouvoir faire des meilleurs résultats. Ce qui pêche sur les deux matchs globalement, c'est la finition, la technique individuelle, c'est quelques passes ratées. Et je crois que sur l'ensemble du week-end, après je vais pas me tromper, mais on doit rater 10 shoots au but et à ce niveau-là, on n'a pas le droit, quoi.
L'équipe d'Aramonsaz maintenant qui reste à la 7ème place du classement provisoire. José Lito Mirales est le meilleur buteur de la formation et le meilleur buteur du championnat. Il est premier, il est également le mieux classé de la formation au classement des joueurs WHBO, il est 6ème. Deux joueurs avertis dans cette formation, Stéphane Gonnet et Stéphane Gillot, sous le coup d'une suspension puisqu'ils ont tous les deux un carton jaune. Deux défaites pour l'équipe d'Aramonsaz à Mâcon, l'une contre Loire-sur-Rhône, l'autre contre Bellegarde. C'est l'une des équipes qui semble être le plus en dessous du niveau auquel on pouvait l'attendre cette saison. Le collectif aramonais a vraiment souffert dans pas mal de secteurs du jeu sur l'étape de Mâcon. Des problèmes de cavalerie, des joueurs blessés, enfin voilà, Aramonsaz n'est pas forcément dans une bonne dynamique, même si on sait très bien que ce genre d'équipe peut se révéler tout au long de la saison et effectuer de bonnes prestations sur les matchs retour. On écoute tout de suite Bertrand Leclerc, entraîneur de l'équipe aramonaise.
Petit bilan, on voit sur l'étape qu'on a perdu des repères, notamment défensifs. Une de grosses forces, c'était notre force, c'est devenu une faiblesse. Et puis derrière, il y a une perte de vitesse, il y a une perte de confiance. L'équipe est un petit peu malade. On va profiter de la trêve pour essayer de les récupérer. Mais là, on a des choses à réajuster tranquillement. Là, le gros problème actuellement, c'est notre cavalerie. On a un joueur qui est sur un cheval loué, on a un joueur qui monte sur le cheval d'un autre joueur parce que le sien est encore convalescent, donc c'est absolument pas des excuses. Mais c'est clair que du fait, au niveau défensif, on n'a pas les binômes, on n'a pas les couples, et ça coûte très cher en pro-élite, quoi.
L'équipe de Bellegarde maintenant qui gagne une place au classement provisoire et occupe maintenant la 8ème position. C'est d'ailleurs la seule équipe qui gagne une place au classement provisoire. Joël Gambino est donc le meilleur buteur de la formation. C'est également le meilleur joueur au classement WHBO et c'est l'unique joueur qui est sous le coup d'un carton jaune pour l'instant dans son équipe. L'équipe de Bellegarde qui a donc fait un match nul face à Angers et qui s'est imposé face à l'équipe d'Aramonsaz. Face à Angers, on a vu des joueurs de Bellegarde qui auraient pu véritablement prendre l'ascendant, mais un petit peu trop de perte de balles pour prétendre à cette victoire malgré une équipe beaucoup plus sereine et posée que ce qu'on a vu depuis le début de saison. Le lendemain, face à l'équipe d'Aramon qui était vraiment fragile, Bellegarde a soigné sa prestation pour rendre quelque chose de très intéressant dans tous les secteurs du jeu, avec cependant quelques passages à vide de temps en temps. Je vous propose qu'on écoute Clément Orzag qui jouait pour l'occasion avec l'équipe de Bellegarde.
C'est un bilan très positif parce qu'au final c'est le premier week-end où on arrive à récolter des points. Oui, un début de saison qui est au-delà du difficile, qui était plutôt médiocre, incapable de finir un match plein. Donc clairement on a pris la mesure du championnat, on a fait face à des équipes qui sont en place et nous on est capable de tenir 20 minutes, en tout cas sur ce week-end. Maintenant, il n'y a rien qui est fait. Il faut encore prouver sur le week-end prochain, parce qu'on a quand même du retard au niveau du goal average et des points. Aujourd'hui, on a une défense qui est en place. Mis à part le match contre West Lyon, on a pris l'eau. Le reste, même des équipes comme Bordeaux ou comme Arles, on nous ont pas mis une vraie valise. Donc en défense, je pense que là-dessus, on est plutôt en place. Après, en attaque, c'est juste un problème de tête. C'est pas vraiment un problème de technique individuelle ni de schéma. On a un vrai problème de tempérament. Les sudistes, ils ont le sang chaud et la balle les démange. Donc parfois, on a tendance à un petit peu tenter des choses qu'on devrait pas sur un championnat comme la Pro Elite.
L'équipe de West Lyon est la seule formation à perdre une place au classement provisoire et occupe maintenant la 9e position. Thomas Marchal et Alexis Dunant sont les meilleurs buteurs de la formation. Alexis Dunant est quant à lui le mieux classé au classement des joueurs WHBO. Deux joueurs se sont sous le coup d'un carton jaune, Raphaël Delmotte et Thomas Marchal. Quant à Mathieu Paoletto, il a eu un deuxième carton le samedi à Mâcon. Il a donc purgé son match de suspension. Un match nul face à Coutainville, une défaite face à Bordeaux. On a vu une équipe de West Lyon qui se met de plus en plus dans le rythme de la Pro Elite, notamment face à Coutainville Izea. Contre Bordeaux, trop de problèmes en défense. Bref, un match trop difficile pour le moment pour l'équipe de West Lyon. On écoute Marc Hess, l'un des joueurs de l'équipe de West Lyon.
D'un point de vue technique, on est satisfait de la façon dont on arrive à aborder les matchs maintenant avec beaucoup plus d'intensité. C'est vrai que entre les matchs de pro et les matchs de pro élite, il y a une grosse différence d'intensité, donc il faut arriver à s'habituer à ce rythme-là. Donc là, effectivement, à Rosières, on a eu un peu de mal, et puis depuis Saumur, on a l'impression que ça va mieux. Le match contre Coutainville hier, si on nous avait promis un nul avant le match, on aurait signé tout de suite, donc on est satisfait. Bordeaux, ils nous ont donné une leçon, une leçon de dressage de chevaux, une leçon de vision du jeu. C'est des leçons qui sont bonnes à prendre, même si on a un peu l'impression sur le match de subir leur jeu tout le long, quoi. Bon, on a des difficultés avec la défense sur le rôle, surtout du 3. Les défenseurs bas ont des fois du mal à être soutenus par le défenseur qui les précède, quoi. En touche, on a eu des problèmes de cavalerie quand même, parce que depuis le début de l'année, on a deux joueurs qui n'ont pas leurs chevaux, qui ont des chevaux d'emprunt, qui ne jouent pas à ce niveau-là. Donc en touche, on n'a pas la cavalerie, mais c'est parce qu'on n'a pas nos chevaux, quoi.
Et on en finit avec ce tour d'horizon du classement par l'équipe de Loire-sur-Rhône qui reste à la 10e place du classement provisoire. Loïc Séjard est le meilleur buteur de sa formation. Charles-Éliott Lacombe est pour l'instant le mieux classé au classement des joueurs WHBO. Pas de carton à signaler dans cette équipe. Équipe qui a d'ailleurs fait signer une victoire face à Ramonsaz et une défaite face à Lille-Emeroc. L'équipe de Loire-sur-Rhône, toujours particulière à voir évoluer, a cependant mis un petit peu plus de rythme dans son jeu. On a vu une très bonne touche, comme à leur habitude, qui leur permet d'exploiter pas mal de ballons. Face à Aramon, la saison des Rhône-Alpins a véritablement été lancée puisqu'ils ont signé leur première victoire en Pro Elite. Les joueurs de Loire-sur-Rhône qui misent véritablement sur leur collectif et leur fonctionnement. Une victoire intéressante face à une équipe d'Aramonsaz qui est tombée dans le piège et une défaite face à des Lillois très combatifs. Je vous propose qu'on écoute le coach de cette équipe, Olivier Séjard.
Nous, on n'a pas des grosses individualités. Donc notre seule possibilité de faire quelque chose, c'est vraiment dans le collectif. On est un peu faible mentalement, puisque contre les grosses équipes, on sait qu'on va perdre les matchs. Alors du coup, on reste concentré, appliqué dans notre jeu. Et contre les équipes censées être plus à notre niveau, dès qu'on a un souci, ça se passe pas comme on voudrait, on craque, on perd les matchs, c'est pas ça qui est grave, mais surtout on perd complètement nos moyens. On perd notre jeu, on joue un jeu qu'on ne sait pas faire, on veut faire les différences individuellement, mais on n'a pas les joueurs ni les chevaux pour faire ça, donc il faut qu'on travaille là-dessus. On a eu des soucis dans notre jeu sur le premier match, et on est revenu à un jeu très très basique où c'est vrai qu'on essaye de tasser la défense en circulant vers l'arrière, mais ça reste. On a repris une formule un peu scolaire, on va dire, un peu pour retrouver un jeu, et maintenant on travaille sur cette formule pour l'améliorer en mettant de la fluidité là-dedans, quoi. Voilà, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire. Et aussi à garder ce jeu-là, quoi qu'il arrive. Et pour l'instant, ça, on n'y arrive pas. Voilà.
Avant de prendre la direction du Mans, nous vous proposons un petit focus sur le championnat de France Pro.
Et oui, effectivement, du côté de la catégorie Pro, on jouait aussi sur l'étape de Mâcon. Au rayon des bonnes opérations, c'est l'équipe de Vendôme qui s'en sort le mieux en s'imposant les deux jours face à Rouen et à Gif. L'équipe de Vendôme gagne donc une place précieuse et sort de la zone de relégation, laissant à 4 points d'elle le premier relégable. En milieu de tableau, le championnat s'annonce un des plus disputés à égalité de points. Les équipes de Chambly, Rouen, Nancy-Lorraine et Vendôme affichent autant de victoires que de défaites, résumant bien le niveau qui est celui de la catégorie. Du côté des équipes de tête, en revanche, l'écart se creuse. Si l'équipe de Lyon affiche quelques fragilités sur certaines rencontres, elle est assise sur une solide deuxième place, laissant à 2 points l'équipe de Chambly, actuelle troisième. Pour match, tous les compteurs sont au vert. S'imposant face à Chambly et Lyon ce week-end, les joueurs mâchois ont clairement montré que l'équipe est taillée pour l'élite. Les Gifois, quant à eux, lancent enfin leur saison en s'imposant pour la première fois dans cette édition 2015 du championnat. C'est l'équipe de West Lyon qui en a fait les frais. Cette dernière s'installe d'ailleurs sur la place de Lanterne Rouge. Avec 8 points chacune, c'est donc les équipes de Gif et de West Lyon qui occupent les places de relégables. À ce titre, nous retrouvons Quentin Gauthier-Lafaille, le coach de cette jeune équipe gifoise.
Après 5 matchs à baisser la tête, on attendait une réaction d'orgueil des joueurs. Aujourd'hui, je pense qu'ils l'ont eu, c'est bien. Maintenant, il faut construire là-dessus pour continuer la saison. Ça va être difficile, effectivement. Voilà. Une saison longue pour Gif sur Yvette. Bah, Gif, avec cette équipe, c'est 2 joueurs qu'on intègre dans le collectif. Un joueur qui nous faisait quand même du bien l'année dernière, qui est parti pour ses études à Hong Kong. Des joueurs avec plus ou moins de problèmes physiques aussi, parce qu'on a un joueur qui est absent jusqu'à la rentrée. Voilà, donc c'est forcément un début de saison. On le savait qu'il serait difficile, on espérait qu'il le serait un petit peu moins. Bah, le championnat de France Pro, il est avec, moi je dirais, 1 joueur au-dessus du lot. Qui fait du bien à son équipe et du coup ils sont en tête du championnat. Après, toutes les équipes, c'est toujours des matchs possibles, des choses à aller gagner. On sent que c'est quand même un championnat où tous les coups sont possibles à chaque fois.
C'est le moment de prendre la direction du pôle européen du cheval du Mans, le Bullry Jump, où se retrouveront les 10 équipes du championnat de France Pro Elite pour disputer les 7e et 8e journées de la compétition.
Et c'est également au moment que les formations de la catégorie Pro Elite féminine joueront pour le compte des 5e et 6e journées de leur championnat, après la dernière étape qui s'est tenue en décembre au Salon du Cheval de Paris.
Vous pouvez d'ailleurs retrouver notre récapitulatif sur cette dernière étape féminine, avec l'interview entre autres de Justine Hamann pour l'équipe de Chambly, dans notre émission datée du 10 décembre dernier, aux environs de la 12e minute.
L'organisation de la prochaine étape du Mans a été confiée par la Fédération Française d'Équitation à Laura Boutin et Philippe Rossi. Et ce sera donc la 2e année consécutive que ce merveilleux site accueillera le plus haut niveau du horseball français.
Tout ça étant dit, on va maintenant entrer dans le vif du sujet. Quelles vont être les compositions probables des équipes pro-élite? Pour essayer de répondre à cette question, c'est le moment de faire un tour par l'infirmerie de la pro-élite. L'équipe d'Angers pour commencer, avec aucune blessure à signaler pour les joueurs et les chevaux du côté de l'infirmerie. On aura cependant un nouveau cheval pour Pierre-Hugues Henry et Ludovic Dohomont aura son cheval habituel et une nouvelle monture que l'équipe présentera en 7e cheval.
Du côté de l'équipe d'Aramon Saz, on notera l'absence de Frédéric Petrequin et d'Arnaud Mazas ainsi que l'absence du cheval de Stéphane Gillot, Mythique Magambe, et retour à noter également de Alexandre Mazas après sa blessure sur l'étape de Saumur.
Pour l'équipe en tête du classement provisoire, Arles HCC, retour du cheval de Nicolas Thiessard, Saboud, Juniti, et une composition qui sera donc au complet pour l'étape du Mans.
Du côté de l'équipe de Coutainville, Iséa, toujours le cheval de Clément Habit qui est indisponible et qu'on attendra au mieux sur Saint-Lô. On le verra donc évoluer avec Maliana et on retrouvera Cernin Pitois au coaching de cette formation de Coutainville-Iséa.
On passe à Chambly maintenant avec très peu de changements, voire quasiment aucun, si ce n'est un choix du coaching a priori, puisque Pao Cruz Marty n'aura pas son cheval habituel Little Joe, mais sera cette fois-ci associé à Maria Ignacia, ce qui n'est pas dû a priori à une blessure.
Du côté de l'équipe de West Lyon, retour du cheval d'Alexis Dunant à Nizakis. Cependant, blessure du cheval de Thomas Marshall qu'on attendra pour un retour en mai ou juin prochain seulement. On verra donc Thomas Marshall évoluer avec Vol du Châtelet ou Native.
Passons à Loire-sur-Rhône maintenant. Loire-sur-Rhône avec le retour de Sylvain Brosseau sur Espelen qui était indisponible depuis le début de la saison. Il ne devrait disputer qu'un match sur les deux en alternance avec FC Jarre qui montera Vulcain.
Du côté de l'équipe de Lille et Méroc, beaucoup de changements à noter. On commence par les blessures. Trois chevaux blessés. Fredo, le cheval de Tom Dupont. La Caravella, cheval de Robin Cool. Et Kinin 2, cheval de Thomas Chevalier, sont absents et on les attend pour un retour prévu pour Saint-Lô. On verra donc Robin Cool évoluer avec Bob ou Wishful Dreams. Du côté de Thomas Chevalier, on sera sur Israël Angevin. Quant à Tom Dupont, il sera sur War Chandar, le cheval qu'on avait vu évoluer lors de la dernière étape. Pour pallier à l'absence d'Antoine Cocoina, qui ne sera pas disponible sur cette étape, ce sera Grégoire Choquel qu'on retrouvera avec Silicon Wise. Du côté des absents à répétition, on retrouve Maxime Guest, l'entraîneur, qui sera suppléé par Christophe Dupont, et toujours à noter l'absence de Sarah Mégédard.
Pour l'équipe de Bordeaux, une blessure à signaler, celle du cheval de Romain Vigneron, Malco Malta, qui devrait revenir en mars au mieux, selon nos informations. Il y aura cependant le retour d'Hugo Soupe sur Thiago de Blanza, qui réintégrera le collectif bordelais. Romain Vigneron sera tout de même présent sur l'étape du Mans avec un cheval dont on ne connaît pas encore le nom. Il y aura donc 7 joueurs, 7 chevaux, 2 entraîneurs, Bernard de Ponce et Thomas Soupe, qui sera présent. Ils auront la lourde tâche de choisir quels seront les 6 titulaires sur chacune des rencontres au programme de la prochaine étape du Mans.
Et enfin, pour l'équipe de Bellegarde, plusieurs blessés à signaler, notamment Joël Gambino et Julien Bagui, dont le retour est prévu entre mars et avril prochain. On retrouvera donc Antoine Lespèce et Clément Orzag pour suppléer ces deux joueurs blessés. Du côté de Jonathan Rouvière, on sera associé à Kit Desbrosses. Et pour le coaching, ce sera Sylvain Mercier sur cette étape du Mans concernant l'équipe de Bellegarde.
Parmi les 10 matchs au programme, 2 chocs ont retenu plus particulièrement notre attention sur cette prochaine étape du Mans.
Et en effet, avec une opposition directe entre les deux équipes de la zone de relégation, ce sont les équipes de Ouest-Lyon et de Loire-sur-Rhône qui tiennent l'opportunité de se relancer dans la course en marquant l'ascendance sur leurs concurrents les plus directs.
Alors du côté des forces en présence, l'avantage parmi ces deux équipes rhône-alpines, c'est plutôt du côté de Ouest-Lyon.
Oui, effectivement, hein, et notamment l'année dernière, ces deux équipes qui étaient en pro, et on a vu que Ouest-Lyon s'était imposé les 2 fois face à cette équipe de Loire-sur-Rhône. Concernant cette saison d'élite, on compte un match nul pour l'équipe de Ouest-Lyon face à l'équipe de Coutainville et une victoire face à l'équipe de Bellegarde, alors qu'on comptabilise qu'une seule victoire pour l'équipe de Loire-sur-Rhône, c'était face à Ramon.
Eh bien, je vous propose qu'on appelle tout de suite Loïc Séjard pour l'équipe de Loire-sur-Rhône. Bonjour Loïc Séjard et puis bonne année.
Bonjour les experts, bonne année à vous aussi et puis bonne année à tout le monde.
Vous n'êtes pas imposé contre l'équipe de Ouest-Lyon l'année dernière. Pensez-vous que le début de saison de Pro Elite a permis de déverrouiller quelque chose qui pourrait vous permettre de prétendre à la victoire?
C'est un peu difficile à dire. On a eu du mal à être régulier, donc nous, on sait pas trop encore. On a du mal à savoir comment on va aborder les matchs. Après, contre Ouest-Lyon en particulier, c'est vrai c'est un peu notre bête noire. On a du mal à les battre depuis plusieurs années. Donc bon, on part pas favori sur ce match, mais par contre, est-ce qu'on peut prétendre à la victoire? Ça, je pense que oui.
Quel système de jeu et quel secteur de jeu particulièrement vous allez vraiment travailler ou mettre en place des techniques et des tactiques appropriées?
Alors nous, contre Ouest-Lyon, contre nous, ils ont toujours réussi à avoir des défenses assez solides. Donc le but pour nous, ça va être d'essayer d'avoir un maximum de jeux de passe pour essayer d'éviter les contacts du porteur de balle, pour essayer vraiment d'éviter les défenseurs avec la balle à la main. Et puis voilà, après on va continuer nous dans notre esprit. On a beaucoup travaillé ça en essayant de faire évoluer notre schéma tactique, parce qu'on ne va pas non plus révolutionner ça, on va rester là-dedans. Et voilà, avec plus de fluidité, plus de passes encore, faire vivre le ballon un peu plus. Et bon, on espère que ça devrait normalement embêter un peu plus cette équipe de Ouest-Lyon.
Très bien, et ben merci beaucoup Loïc, et puis bonne chance pour cette étape du Mans.
Bah, merci les experts, à bientôt.
Et du coup, pour les experts, ce sera un petit avantage à l'équipe de Ouest-Lyon qui sera donnée dans cette rencontre qui les oppose à Loire-sur-Rhône.
L'autre affiche, l'autre grosse confrontation, hein, celle que tout le monde attend, entre le premier et le deuxième du classement provisoire, ce sera Arles-HSC opposé à Bordeaux.
Oui, effectivement, ces deux équipes qui sont à égalité de points. Du côté de Arles-HSC, on affiche un effectif stable depuis le début de la saison, avec le retour en plus du cheval de Nicolas Thiessard. On retrouvera l'équipe qui est championne de France en titre. Du côté des Bordelais, l'effectif est beaucoup plus flottant, avec des joueurs manquant un petit peu de temps de jeu, des joueurs qui ont été intégrés cette année et des chevaux indisponibles.
Au niveau des performances, les deux équipes n'affichent pas une sérénité des plus rassurantes. Si les deux formations abordent ce quatrième week-end avec 6 victoires chacune, Arles HC et Bordeaux se sont fait peur quand même, hein, sur des résultats qu'on leur disait faciles, notamment dernièrement Arles HC face à Angers.
Effectivement, et à propos de ce choc, je vous propose d'écouter tout de suite Romain De Ponce, capitaine de l'équipe de Bordeaux. Bonjour Romain De Ponce et bonne année.
Bonjour messieurs les experts, bonne année à vous également.
Alors vous affrontez l'équipe d'Arles HC donc sur cette étape du Mans. Comment se prépare-t-on pour ce genre de confrontation? Enfin, c'est une équipe qui remporte le titre depuis 2 ans. Est-ce que la motivation est toujours la même?
La motivation, elle est la même forcément. Elle est décuplée du fait de les avoir vus devant nous l'année dernière et l'année précédente. Donc ça, c'est pas trop le souci. L'erreur pour nous serait d'oublier qu'on a joué à Ramon le samedi et que ça va être un match également important qui va compter autant de points que le match de dimanche, donc pas d'erreur à faire sur ce match là donc une concentration où on va essayer d'y être dès le début du week-end et puis après ce match contre Arles qui va arriver et qui va être assez déterminant pour la suite de la saison comme l'année dernière et les années précédentes.
Alors vous allez affronter quand même des joueurs que vous connaissez parfaitement pour les fréquenter et les jouer en équipe de France. Quelle vision vous avez de ce groupe arlésien et surtout comment vous vous préparez-vous en interne et notamment avec vos nouveaux joueurs pour les affronter?
Alors oui, forcément on sait qu'on va affronter une grosse équipe. C'est vrai que ça fait plusieurs années qu'on les côtoie, qu'on les connaît. Et eux ont exactement la même formation maintenant depuis plusieurs saisons. Donc on n'aura pas de surprise par rapport à ça. Maintenant on sait qu'ils sont capables de tout et que quand ils nous font le meilleur, ils sont très compliqués à jouer. Maintenant nous, ce qui nous importe, c'est avant même de préparer nos joueurs à affronter ce type de joueurs, c'est surtout d'être capable de mettre en place notre jeu.
Et bien justement en parlant de jeu, face à Arles HC, quel est le secteur du jeu clé pour vous sur un match comme ça?
Je pense que tout est important. On sait très bien que la touche va être primordiale puisque la possession de balles et les gains des ballons vont être essentiels sur le résultat final. Maintenant, l'année dernière, sur notre première confrontation, on fait jeu égal là-dessus et on perd malgré tout d'un but. On sait que ça se joue à rien. Le déchet technique est aussi très 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 important de ne pas en avoir justement. Ça peut être aussi des fois le cas d'Arles. On sait que ça peut partir un petit peu sur plein de choses, ce genre de match. Et aussi bien en attaque qu'en défense, il va vraiment falloir qu'on mette en place un rythme et une intensité de haut niveau pour pouvoir tirer notre épingle du jeu.
Et ben merci beaucoup Romain, et puis bon courage pour cette prochaine étape au Mans.
Merci à vous.
Au vu de l'historique et des statistiques, notre avantage est plutôt à la faveur de l'équipe d'Arles HC sur cette rencontre face à Bordeaux. Au niveau des autres rencontres au programme, hein, il faudra rester très prudent. Il y a beaucoup d'oppositions et beaucoup d'enjeux sur chacune des rencontres, avec 5 équipes qui se tiennent en 2 points entre la 6e et la 10e place. Les cartes peuvent vraiment être distribuées sur chaque rencontre.
En effet, si Bordeaux et Coutainville-Lisiane ne devraient pas rencontrer trop de problèmes face à Ramonsaz et Bellegarde, Chambly devra faire attention à ne pas se laisser prendre par cette équipe d'Angers, qui tient quand même tête au Ténor hein, depuis le début de la saison. On se rappelle notamment de la défaite face à Arles HC, 9 buts à 8, ou contre Coutainville, 8 buts à 7.
Et oui, et notamment le dimanche, hein, l'équipe de Bellegarde rencontrera une autre équipe hein, du top 4 en affrontant Chambly. C'est un match dans le match qui attend d'ailleurs Clément Orzag, l'ancien chamblysien, face à ses anciens coéquipiers.
Aramon et Ouest Lyon peuvent relancer leur saison face à des adversaires à leur portée, respectivement Coutainville, Iséa et Lille, ou alors s'enfoncer dans leur série noire respective.
Enfin, si logiquement l'équipe d'Angers devrait venir à bout des joueurs de Loire-sur-Rhône, statistiquement en tout cas, le style de jeu des joueurs rhône-alpins pourrait surprendre les Angevins.
Effectivement, entre une équipe qui privilégie les débordements puissants et une équipe qui fonde son jeu sur la passe en entraîne, il n'est pas évident de pronostiquer une victoire, bien qu'Angers, hein, par sa place au général, je vous rappelle qu'Angers est 6e, donc Angers occupe une place de favori sur cette rencontre.
Voilà, notre 4e émission de l'analyse des experts touche à sa fin. Merci à tous de nous avoir suivis.
Pour retrouver toutes les données sportives et suivre la prochaine étape du Mans avec des informations mises à jour en temps réel, rendez-vous sur le site internet et sur la page Facebook de horse-ball.org.
Pour nous poser vos questions ou encore nous apporter vos suggestions auxquelles nous essaierons de répondre dans notre prochaine émission, vous pouvez nous écrire à l'adresse email suivante info@horse-ball.org.
On se retrouve pour la prochaine émission de l'analyse des experts le 4 février, le mercredi précédent la prochaine étape de la compétition qui se disputera à Saint-Lô.
Merci à tous
et bonne étape au Mans.